Suivez le guide. Une série en partenariat avec Tourisme Haute-Corrèze. Pour ce volet de la série, on va de nouveau plonger dans le passé, mais un passé cette fois vraiment lointain, puisqu'il s'agit de remonter près de 8000 ans en arrière, à l'époque où le site du Longéroux a commencé à se transformer en tourbière. Alors on se met dans le sillage d'Émilie de Tourisme Haute-Corrèze et de son groupe, et c'est parti.
C'est des personnes du groupe qui sont là-bas, au bout du bout, là-bas?
Oui, regarde.
Il y a Philippe, je crois, non?
C'est pas le même groupe que vous?
Non.
Ah, mais de toute façon, il y a toujours des gens qui se promènent sur la tourbière. Tout le temps. Ça fait partie des sites comme les ruines d'Écart ou autres, où on a toujours des gens. C'est un site naturel, hein, donc c'est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On peut venir quand on veut. Hein. Donc aujourd'hui, on se trouve sur le site de la tourbière du Longéroux. Donc là, géographiquement, on est toujours sur la partie nord de la Corrèze, la Haute-Corrèze, et on est surtout en plein cœur du parc naturel régional de Mille Vaches, avec ce site emblématique du plateau, la tourbière du Longéroux, qui s'étend devant nous sur 250 hectares. C'est une zone préservée, classée, protégée, site Natura 2000, pour sa faune et sa flore extraordinaire que l'on y retrouve. Quand on arrive sur le site de la tourbière du Longéroux, on ne peut pas louper le parking puisqu'on a un immense bloc de granit marqué site du Longéroux. Et à partir de là, va s'offrir aux visiteurs la possibilité de découvrir différemment cette tourbière. Soit par un sentier d'interprétation, un sentier pédagogique d'un kilomètre qui s'appelle le sentier de l'Inaigrette, où là, tout au long du parcours, on va avoir des explications sur la tourbière, comment elle s'est formée, la faune, la flore qui la caractérise. Et puis, pour ceux qui sont plus amateurs de randonnée, eh bien, il y a un sentier qui fait 9 kilomètres, qui s'appelle le sentier de la Bruyère. Donc là, on peut le faire facilement. On suit des balisages, c'est une bloc de granit avec une bruyère de gravée dessus. On revient un petit peu sur la route, on franchit un bosquet, et à la sortie de ce bosquet, on rentre sur la tourbière, et ensuite on va la longer, puisqu'on va longer une forêt de douglas, et qui nous ramènera tranquillement sur le parking. Mais le conseil de Tourisme Haute-Corrèze, c'est quand même de rajouter le petit sentier pédagogique, parce qu'il fait rentrer dans le cœur de la tourbière, dans l'alvéole et dans sa zone humide, et là on a encore plus d'explications qu'en faisant le petit sentier de 9 km. Alors, je vais rejoindre le groupe là-bas. Puis on va faire une petite halte le temps que tout le monde revienne. On va descendre, nous, cette fois-ci, dans l'alvéole, donc au cœur même de la tourbière. L'eau est quand même présente, ce qui fait que tout de suite, vous allez voir, quand on arrivera dans l'alvéole, on a un sol qui est beaucoup plus spongieux, finalement. Donc, on va emprunter le chemin, on va descendre et on va s'arrêter à une première mare. En fait, cette première mare, donc faites attention, juste ne vous approchez pas trop parce que les rebords sont pas forcément très très rectilignes. Et puis surtout, c'est qu'on s'enfonce bien dans une tourbière. Hein. C'est pour ça que j'ai mes bottes. Je vous montrerai aussi que dans une tourbière, quand on s'enfonce et ça fait bien un peu effet ventouse. Hein. Donc on est parti, on descend et on va aller découvrir un peu plus cette tourbière. Donc cette tourbière, en fait, ce qu'il faut surtout garder en tête, c'est la façon dont elle s'est constituée. C'est-à-dire que, en fait, nous ici, c'est notre climat océanique, continental, c'est-à-dire une pluviométrie importante au printemps et à l'automne, qui, sur notre sol granitique, ça a creusé une cuvette qu'on appelle une alvéole. Et dans cette alvéole, au cœur de cette alvéole, on va avoir cette eau de pluie qui va rencontrer notre sol granitique acide et surtout imperméable, et dont cette eau va stagner. Et c'est à partir de cette stagnation que l'on va avoir une prolifération de plusieurs végétaux qui vont venir se coloniser les uns des autres et profiter d'eux. Mais surtout, ce qui caractérise en fait une tourbière, elle a un adjectif un peu barbare qui la qualifie. On dit que c'est un système oligotrophe, c'est-à-dire que c'est la lenteur qui va prédominer ici dans le Longéroux, puisqu'on dit qu'il faut un siècle pour que se forme 1 à 2 cm de tourbe. Et en fait, c'est ce que l'on voit tout au long de cette visite. On essaye de comprendre comment la tourbière s'est formée, donc à partir d'une mare, une simple eau qui est là, stagnante, dans laquelle le trèfle d'eau va proliférer, puis la sphaigne va venir l'envahir. Et sur cette sphaigne, eh bien, on va avoir des végétaux qui vont venir s'implanter, profiter d'elle, comme la canneberge, enfin, les cranberries, la drosera, cette petite plante carnivore que l'on peut observer pendant la période du printemps, de l'été, puis un petit peu au début de l'automne. Et puis, au fur et à mesure, bah, le rôle de cette sphaigne, c'est de se gorger d'eau, de se pomper d'eau, et au fur et à mesure, de refermer cette tourbière, en gardant, bien sûr, en profondeur, cette eau. Et quand elle se referme, eh bien, ça va être place à une autre végétation, comme de la molinie bleue, donc cette graminée que l'on observe au printemps. Et puis, surtout, quand on a la chance de venir en juin, eh bien là, on a un tapis tout blanc qui s'offre devant nous, quand on est en hauteur, c'est la fameuse linaigrette, cette fleur blanche, d'un aspect très cotonneux quand on la touche, et qui jalonne un petit peu partout le long Géron. Alors n'hésitez pas à vous décaler un petit peu. La sphaigne, c'est ce que vous avez sous ça. Mes pieds, hein. Enfin juste en face de vous. Donc le sentier des linaigrettes, le point de départ, c'est une table d'orientation qui va justement expliquer comment la tourbière s'est formée et notamment le paysage qu'on a devant nous, c'est-à-dire sur les parties sommitales, et ben on va avoir la forêt, puis après on a une partie de replat avec une lande à calune, et puis ensuite on arrive vraiment dans le cœur de la tourbière, et pour ce faire, et ben on suit en fait le sentier qui est déjà tout tracé, et dès qu'on va rentrer dans la zone dite humide, on va avoir un aménagement de patelage en bois qui va permettre aux gens de découvrir vraiment de façon très sécurisée cette tourbière, et puis vous allez rencontrer à plusieurs endroits des petits plots en bois qui vont vous parler par exemple de la cordulée arctique, cette libellule qui vit ici et qui prend naissance ici sur la tourbière, de ce petit lézard vivipare, de la drosera, de la canneberge, des trèfles d'eau, et puis après vous avez surtout ce qui est très fascinant et surtout à ne pas hésiter à tourner ces pages entre guillemets, c'est un livre archéologique en bois qui va expliquer l'évolution paysagère depuis 8000 ans, date de la création de la tourbière, jusqu'à nos jours, comment le plateau de Mille Vaches a évolué en termes de boisement. Et puis le dernier point de ce sentier d'interprétation, c'est un espace plus dédié en fait à l'extraction de la tourbe, parce que justement ces tourbières à l'époque étaient exploitées pour extraire la tourbe qui était un moyen de chauffage. Et tout ceci vous est expliqué pendant le petit sentier d'un kilomètre qui est tout le temps aménagé et qui est tout le temps ouvert, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une saison plus que l'autre, on peut le découvrir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, printemps, été, automne, hiver, ça a son charme vraiment toute l'année. Et puis, en déambulant encore sur ce sentier en caillebotis, et bien au bout d'un moment, le conseil, c'est de sortir justement de ce sentier pour tout simplement aller observer la partie un peu plus humide où on voit le trèfle d'eau, où on voit la sphaigne et où on peut observer la drosera. Alors la drosera, c'est une toute petite fleur rouge qui va attirer l'insecte par cette couleur. Et puis l'insecte se trouve prisonné dans cette partie gluante qu'elle peut avoir. Et donc du coup, c'est vraiment l'endroit propice pour pouvoir la découvrir à cet endroit-là.
Question comme ça, je ne sais pas si on peut vraiment y répondre de manière précise, mais c'est qu'on parle beaucoup de milieu naturel pour la tourbière. C'est vrai que c'est un peu un exemple phare dans le coin, mais j'avais là aussi l'impression que c'était un milieu complètement anthropisé, en fait, et même qui était un peu dépendant. Il n'existe que s'il y a soit exploitation, soit pâturage, sinon il se referme, en fait.
Exactement, c'est-à-dire que la tourbière, aujourd'hui, si on n'avait pas cette présence, notamment du pastoralisme, sur la tourbière, et si le conservatoire n'intervenait pas en recréant des petites mares, des petites gouilles, c'est un paysage qui se refermerait complètement et qui s'assècherait surtout, parce qu'une tourbière, ça a vraiment la particularité de consolider le réseau hydraulique que l'on peut avoir sur le plateau, parce que l'eau est quand même là, seulement la tourbière, avec la pollinisation, les oiseaux, le vent, il y a des arbres qui s'implantent au cœur de cette tourbière, et que ces arbres, si on les laisse prospérer, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout simplement pomper l'eau, et donc du coup, assécher la tourbière. Bien sûr, il y a toujours eu du pastoralisme ici sur la tourbière. La tourbière a été exploitée, comme on l'a dit, puisqu'il y avait des zones privées où les familles faisaient leur propre tour pour pouvoir se chauffer. Mais ensuite, aujourd'hui, du coup, on est revenu pendant très longtemps. On a abandonné cette forme notamment de pastoralisme. Et puis, on y est revenu depuis maintenant quelques années. J'ai plus la date en tête, mais je pense que ça devait être vers 2017 ou bien avant, je pense. Et du coup, le fait de remettre le pastoralisme sur les mois, sur quelques mois, hein, parce que c'est de mai à fin septembre, début octobre, eh bien, on a vu ce changement, notre berger a vu ce changement, que du coup, bah, cette tourbière, on a moins tous ces petits arbres qui s'implantent, puisque les brebis passent, vont tout manger, et ça nous permet de préserver du coup ce site extraordinaire. Alors, on respecte quand même le milieu, mais c'est une façon de pouvoir faire en sorte qu'elle perdure et qu'elle soit toujours là.
Et alors, si on veut le visiter quand même avec une visite, comment on fait ?
Donc là, quand on veut le visiter en visite guidée, donc il y a deux possibilités. Tourisme de Corrèze va organiser pendant la période estivale, donc de juillet et août, de façon très régulière, une fois par semaine, une visite de la tourbière du Longéroux qui est particulière dans le sens où eh bien, on est accompagné de Fabrice qui est berger et qui vient avec son troupeau de brebis, et donc du coup c'est une heure de visite guidée sur qu'est-ce qu'une tourbière, et ensuite c'est plus un dialogue, un échange avec Fabrice qui nous raconte pourquoi il est là, pour quel est son métier de berger, quelle est la race de brebis avec laquelle il travaille et son métier d'éleveur aussi. Donc ça, c'est des visites qui ont lieu uniquement en juillet, en août pour les individuels, mais ensuite notre service commercialisation groupe va proposer tout au long de l'année des visites guidées quand les personnes veulent faire une visite en groupe. Donc on considère un groupe à partir de 15-20 personnes, voire plus, et donc là c'est une visite où on va s'adapter aux contraintes du groupe. Donc faut pas hésiter à nous contacter, donc Tourisme de Corrèze, notre numéro de téléphone c'est le 05 19 60 00 30, et puis on vous redirigera vers Delphine qui est en charge des groupes au sein de l'équipe.
Voilà, à vous de choisir parmi toutes ces possibilités de visite. De mon côté, je vais resserrer mes chaussures de marche et opter pour les 9 km du circuit des Bruyères. Allez, en route.